du ciel et de la terre et tout ce qui les renferme. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Tu as libéré la parole dans l'atmosphère et cette parole a créé toutes choses.
Alléluia.
Nous voudrons, Seigneur, écouter cette parole. Le psalmiste nous dit, même les rebelles, ceux qui s'étaient rebellés à toi, par les rébellions, ils étaient malades, même près de la mort. Ils ont crié vers toi. Tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris.
Amen.
Père, cette parole qui crée, qui fonde toutes choses, nous voudrons encore une fois écouter cette parole, Seigneur, pour que notre foi soit fondée et établie dans cette parole. Cette parole, Seigneur, nous voudrons que chacun de nous reçoive sa part. La Bible nous dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, laisse que chacun de nous reçoive quelque chose de ta part au travers de cette parole. Mais Seigneur de gloire, nous prions pour l'instrument que tu t'es choisi cet après-midi pour nous parler, Seigneur. Que tu puisses, ô Dieu, oindre chaque parole. Laisse que l'homme disparaisse et que toi tu parles à ton peuple. Puisque nous voulons seulement t'écouter et toi seul. Utilise les puissants qui soient juste un canal par lequel tu vas parler à ton peuple. Seigneur, laisse que ta gloire revienne seulement à toi. Nous voudrons te dire merci en toutes choses. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les ciels, sur la terre, en dessous de la terre. De nom, les noms devant lesquels tout genou fléchit. Nous voulons dire merci. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Bon, j'invite notre frère, le révérend Célestin, pour l'enseignement de ce soir.
Merci beaucoup.
Bonsoir frères et sœurs.
Bonsoir.
Merci d'être là. Cela prouve combien nous aimons le Seigneur, notre présence ici. Malgré que dans chaque assemblée, il n'y a pas que les gens qui viennent pour la parole. Il y a aussi l'ennemi qui est là. Et son travail, c'est juste détruire. J'espère que nous allons être attentifs pour que le Seigneur nous parle et que nous ne puissions pas prêter la voix à l'ennemi qui ne fait qu'être présent parmi les peuples de Dieu. Frères et sœurs, depuis aujourd'hui, notre troisième jour, nous sommes en train de traiter les thèmes sur la famille. Et le thème de notre camp, c'est « Lèvons-nous et bâtissons nos familles ». Et depuis le début, nous nous sommes dit, quand on s'est dit « Lèvons-nous et bâtissons », parce qu'il y a aussi une voix contraire qui dit « Lèvons-nous et détruisons ». Et nous pouvons facilement écouter cette voix et la famille qui est réellement une institution divine que Dieu lui-même a créée, nous pouvons facilement écouter Dieu continuer à nous parler. Nous pensons bien faire, mais nous sommes en train de détruire. Amen.
Amen.
Nous avions commencé à dire, frères et sœurs, que la famille, ce n'est pas une invention américaine, canadienne, africaine. C'est une invention de Dieu lui-même. C'est lui qui a fait les constats, qui a vu qu'il n'était pas possible pour l'homme d'être seul, qui a créé une aide semblable, qui a mis cette aide à côté de l'homme. et qui leur a donné la possibilité d'être bénis, d'avoir des enfants, de constituer la famille. Et c'est Dieu, c'est l'initiative de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à détruire la famille avec les traditions. Avec les traditions, nous voulons vivre la famille comme les Canadiens vivent, comme les Américains vivent, comme les Africains vivent, chacun à sa manière. C'est pour cela que quand nous nous réunissons comme ça, nous voudrons retourner une fois la parole. Quand nous retournons la parole, beaucoup de gens disent que c'est mauvais de se marier. C'est ce que les hommes disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça signifie, c'est très bon que l'homme reçoive une aide. Et cette aide, avec l'homme et la femme, c'est le mariage, les enfants vont venir, et c'est la famille. Voilà, dans le plan de Dieu, c'est très bon, la famille. Alors, quand on veut écouter le monde, on va se rendre compte que le mariage, c'est dur, c'est difficile, c'est impossible. Et quand on va avec cet élan, que c'est impossible, parce que je vois, imaginons des jeunes gens qui voient toute la journée, toute la semaine, toute l'année, les parents ne font que se chamailler, ne font que se battre, les enfants vont avoir ça comme mariage. Et ça, ce n'est pas le mariage. Jeunes gens, si vous avez vu les parents tout le long de votre vie, en train de se battre, en train de se chamailler, en train de se cacher de l'argent, en train de faire des choses, sachez que cela, ce n'est pas le mariage. Cela, c'est un terrain de jeu pour le diable. Amen.
Amen.
Donc, nous sommes en train, des fois, nous avons écouté des choses difficiles, les deux jours passés, mais c'est ça retourner à la parole. C'est ça retourner à la parole. Nous avons commencé par montrer que la famille, ça ne vient pas des hommes. Et nous avons dit la famille, ce n'est pas pour les enfants. Si vous êtes encore enfant, restez chez vos parents. Mais quand vous quittez les parents pour aller constituer une famille, ce n'est pas chaque jour téléphoner à papa. Papa, ici, ça ne va pas. Téléphoner à maman. Maman, ici, ça ne va pas. Il faudra que les parents qui sont dans la salle disent à leurs enfants, quand tu t'es marié, le mariage, c'est pour les adultes. Ce n'est pas pour les enfants. Parce que les enfants doivent rester sous la domination, sous l'autorité, sous la gestion des parents. Alors les parents qui ont toujours l'habitude de téléphoner chez les enfants, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ton mari fait ça et toi tu ne réagis pas? Donner des conseils, sachez que quand les enfants se marient, ils sont adultes. Ils sont adultes. La deuxième journée, nous avons vu, surtout dans la première journée, nous avons vu qu'il y a trois institutions que Dieu a créées sur la terre. La première, c'est la famille. C'est Dieu qui a créé la famille. La deuxième institution, c'est l'Église. L'Église, c'est une institution divine créée, établie par Dieu pour le bien-être, en fait, de l'homme. Et la troisième institution, c'est la société. C'est l'ensemble de toute la population qui devient en fait la société. Alors nous avions dit, quand il y a un ça ne va pas dans le monde, quelque part, vous pouvez imaginer un ça ne va pas quelque part, que ce soit en Palestine, que ce soit en Amérique où on a l'habitude de tuer les enfants dans les écoles, que ce soit n'importe où, l'origine, ça vient de la famille. Quand il y a un ça ne va pas dans la société, quels que soient les mots que ça crée, l'origine, c'est la famille. Voilà pourquoi, dès le départ, le diable, connaissant cela, a commencé par attaquer la famille. La première famille a été la cible du diable, et elle a cédé aux astuces, aux mensonges du diable. Et les mêmes astuces continuent jusqu'à aujourd'hui. La deuxième journée, nous nous sommes attardés sur les fondements. Et ces fondements, quand les fondements sont mauvais, tout ce que vous pouvez bâtir dessus, ça va s'écrouler un jour. Et nous avons cité beaucoup de fondements mauvais. Le mariage entre deux personnes qui ne connaissent pas Dieu, ça peut paraître vraiment très, très, très beau. Mais après, vous allez voir, ça peut s'écrouler pour un petit rien, pour rien du tout. Le mariage entre le chrétien et le païen, ou un semblant chrétien, ou une semblante chrétien. Et ça, c'est plein dans les églises. Les fondements, ça, c'est un fondement déjà mauvais. Et nous avons conseillé aux jeunes gens qu'il ne faut jamais épouser une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Si vous voulez vivre le paradis sur la terre, il ne faut jamais, même si les parents vous poussent. Et nous avons écouté le témoignage dans ce sens pour que nous puissions voir le mariage, il faut le préparer avant. Pardon. Il faut le préparer bien avant. Et quand vous avez fait un bon choix, vous allez avoir un bon mariage. Et beaucoup d'autres fondements, vous pouvez demander à ceux qui étaient là. Nous avons le temps. Et j'avais beaucoup insisté sur les priorités. Et ça, c'est très propre aux chrétiens. Les priorités. D'abord Dieu, famille, et puis travail de Dieu, ou travail de tous les jours. Quand vous inversez, c'est une source de beaucoup, beaucoup de problèmes. Une source de beaucoup de problèmes. Quand vous passez toute la journée en train d'intercéder à l'église, ça, c'est pas Dieu en premier. C'est le ministère. Ça, c'est le ministère. C'est pas Dieu. Dieu, c'est votre intimité avec Dieu. Quand vous allez prêcher et vous n'avez pas créé votre intimité avec Dieu, vous avez mis le ministère avant toute chose. Donc, ça c'est pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous devons savoir, d'abord Dieu, mon intimité avec Dieu, ma relation. Je dois passer du temps à chercher une bonne relation avec Dieu. Et quand vous cherchez une bonne relation avec Dieu, vous allez voir automatiquement, vous allez vous entendre bien avec votre épouse, avec vos enfants. Parce que si vous brouillez tout à la maison, vous voulez toujours aller intercéder, vous voulez toujours aller prêcher, vous voulez toujours... Là, c'est pas Dieu, c'est pas la priorité. La priorité, c'est Dieu, famille, ensuite le ministère. C'est bien bouleversant, mais c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Et quelque chose d'autre que j'ai beaucoup insisté, ça c'est dans le principe. Nous avons parlé du principe de la semence. Nous devons apprendre à s'aimer. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Tous les temps, on sème les injures, on sème les attitudes, on prend l'habitude de s'aimer, de se taire. Je ne veux plus parler dans cette maison. C'est une semence. Et qu'est-ce que vous allez récolter? Ce que vous allez récolter, c'est la destruction de la famille. Nous devons apprendre à s'aimer de bonnes choses, de bonnes paroles. Et quand vous connaissez les Écritures, apprenons à prononcer des bonnes paroles sur les enfants, sur l'épouse, sur le mari. On prononce des paroles. Et ces paroles, même si on n'a pas encore vu les résultats aujourd'hui, les résultats viendront. Parce que c'est la loi de la semence et de la récolte. La nudité, le principe de nudité. Et ça manque beaucoup dans l'Église. Quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte l'un et l'autre. Le premier mariage, voilà comment il était. Aujourd'hui, le principe de nudité n'existe plus dans les familles, dans les foyers. On se cache tout. On se cache le compte en banque, on se cache... on peut avoir acheté... Je connais une famille, la femme achète une parcelle pour ses parents, achète des parcelles. L'homme n'est même pas au courant. C'est pas son problème. Ça, c'est pas le mariage. Nous sommes en train de parler du mariage suivant le plan de Dieu entre l'homme et la femme. Pas entre femme et femme. Pas homme et homme. C'est entre l'homme et la femme. Mais quand ils connaissent Dieu, ils constituent en fait le paradis sur la terre. L'homme et la femme qui connaissent Dieu, ils constituent le paradis sur la terre. Le principe de nudité doit nous aider vraiment à progresser. Je ne dois pas avoir des choses que mon épouse ne connaît pas. Non, si nous avons cela, nous avons encore une brique à chercher pour réellement que les choses changent chez nous. Ça, c'est un camp de restauration, c'est un camp de défi. Nous devons prendre les défis. Qu'est-ce que je peux faire réellement pour réellement que ma famille change? Nous sommes des bâtisseurs, nous sommes venus ici pour bâtir. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la famille qui est le champ de bataille. Et nous avions vu, quand nous avions parlé des raisons, la raison d'être des familles, la quatrième raison d'être d'une famille sur cette terre, c'est pour détruire les œuvres de ténèbres. Ça, c'est une des raisons d'être de la famille. Des œuvres de ténèbres dans ma propre famille, des œuvres de ténèbres dans mon quartier, des œuvres de ténèbres dans mon pays, pourquoi pas les œuvres de ténèbres dans le monde. C'est dans la famille que ça doit partir. C'est une des raisons que la famille existe. C'est pourquoi Dieu, en parlant au serpent, qui symbolisait en fait l'action du diable, et disait au serpent, ta tête sera écrasée par le fils de la femme que tu as trompé. Ça, c'était pour montrer combien les œuvres de ténèbres seront écrasées dans la famille. Et quand on ne prend pas cela, quand on ne prend pas conscience de cela, on va vivre dans la famille comme si tout va bien. On ne sait pas que la famille, c'est un champ de bataille. Dès ta toute première famille, c'était un champ de bataille. Et quand ils ont cédé à l'ennemi, la conséquence a été néfaste pour toute l'humanité entière jusqu'à aujourd'hui. Et les familles, restaurant en Jésus-Christ, nous devons prendre conscience que la famille, c'est le champ de bataille. Sa stratégie, c'est d'abord attaquer la famille. Quand l'ennemi a su maîtriser la famille, il rend l'Église faible. Quand il rend l'Église faible, il rend toute la société faible. Voilà pourquoi 1 Jean 5, le verset 19 nous dit: le monde entier gît sous la puissance du malin. Nous devons le savoir en tant que membres de famille. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et le malin, Pierre nous dit, 1 Pierre 5:8, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant quelle famille peut-être vraiment dans ses filets. Il rôde. Vous pensez, vous dormez, mais lui, il ne fait que rôder pour entendre quelles sont les paroles qu'il prononce. Quelles sont les intentions qu'il présente? Quelles sont ceci? Quels sont cela? Lui, il ne fait que rôder et son but, c'est vraiment détruire. Et notre verset clé que nous avons cité tous les jours, Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on manque la connaissance, on va, et nous allons voir un peu plus loin, on ne va pas savoir que la famille, c'est un terrain où le diable est en train de chercher à gagner. Alors on vit comme si le diable n'existe pas. Et nous allons le voir. Un jour, je reçois un coup de fil en tant que pasteur d'un couple. Ce couple, le couple me dit qu'ils veulent me voir très très rapidement. Moi je dis, mais je suis à la maison, vous pouvez venir. Alors je vois le couple qui arrive. Ce couple a commencé à constater des choses bizarres dans leur maison. Ils peuvent dormir sur les lits et quand ils vont se réveiller, ils vont se réveiller tous les deux sur la terre, sur le pavement, tous les deux. Alors ils se réveillent sur le pavement, ils se disent, mais comment on nous a transportés du lit jusqu'au parterre et nous ne pouvons pas nous rendre compte. Alors ils ont cherché à comprendre, mais qu'est-ce que c'est ce phénomène? Alors on les a amenés à connaître le Seigneur, on a prié pour eux, c'est tout simplement l'ennemi qui a fait de cette famille son terrain de jeu sans qu'il sache que l'ennemi détruit les familles. Frères et sœurs, nous devons apprendre à introduire dans notre famille la prière d'ensemble. Là, nous sommes en train d'aller maintenant par des choses concrètes et pratiques. Apprenons à prier ensemble. Nous allons peut-être écouter cela demain dans le témoignage. Parmi les témoignages, nous avons écouté un merveilleux couple témoigner, nous avons écouté un papa témoigner, nous avons écouté un enfant témoigner, demain nous allons écouter une dame témoigner. La prière, c'est une des briques que le Seigneur donne à la famille pour éliminer beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je dirais même que la prière, c'est le médicament de la famille. La prière, nous pouvons la faire individuellement, mais j'encourage ici la prière d'ensemble. Alors là, j'aimerais que nous puissions lire Matthieu 18 pour que nous puissions voir la force qu'il y a quand nous nous mettons ensemble dans la famille. Nous prions ensemble, comment le Seigneur peut être honoré et qu'est-ce que le Seigneur peut faire quand nous avons compris le secret. Matthieu 18, le verset 19 et 20. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Imaginons que chaque jour, papa, maman, enfant, tous ensemble, nous appelons Dieu dans notre maison. Et quand nous appelons Dieu dans notre maison, ce qui arrive, c'est que je ne vais pas prier quand j'ai parlé du mal à mon épouse, à mes enfants, sans que je leur demande pardon. Je leur demande pardon, nous nous mettons ensemble, nous nous accordons. Ça, c'est une force que les familles ignorent. Une force que le diable sait que si je les tiens divisés, séparés, je les ai déjà obtenus, je les ai déjà gagnés. Apprenons, frères et sœurs, à introduire la famille, la prière plutôt, d'ensemble dans la maison. Nous allons dire, mais nous sommes tous occupés, papa pas au travail, maman pas au travail, les enfants pas. Nous devons nous fixer une heure où nous devons tous ensemble nous fixer, nous devons nous mettre, même si nous commençons par 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, d'ensemble, nous prions ensemble, nous regardons qu'est-ce que nous avons fait ensemble qui n'encourage pas le Seigneur. Nous le faisons ensemble et nous sommes en train de créer une force que Dieu peut permettre de faire avancer la famille pour sa gloire. Amen.
Amen.
Dans notre famille, nous avions commencé à prier ensemble avant que les enfants viennent. À 19h, chaque 19h, nous devons ensemble prier. Ensemble. Et tous les jours, ensemble. Quand les enfants sont venus, ils nous ont trouvés dans cette ambiance. À 19h. Tous ensemble, nous devons nous retrouver tous ensemble. S'il y a eu des tensions pendant la journée, ça ne manque pas dans la famille. Que Lorsque l'enfant demande pardon à terre, le papa demande pardon à terre, la maman demande pardon à terre, la journée, elle se termine par la prière d'ensemble. Et quand vous allez dormir, vous êtes sous la protection divine. Un serviteur de Dieu disait qu'une maison sans la prière d'ensemble, c'est comme une famille sans la prière d'ensemble. C'est comme une maison sans toit. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de protection. Parce que nous n'avons pas appris à rester ensemble pour réellement sceller la maison, couvrir les toits du sang du Seigneur. Nous n'avons pas fait cela ensemble. La prière d'ensemble. Et maintenant, quand les fumées est arrivé, nous ne pouvions plus prier ensemble parce que chez nous, en Alberta, à 19h, c'est le moment que nous méditons ensemble. Et nous avons reculé la prière d'ensemble à 21h. Et que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, les enfants seuls qui sont restés, à 21h, quand on les appelle, on sait qu'ils sont dans la prière. Amen.
Amen.
Donc ça, c'est quelque chose, frères et sœurs. Nous allons peut-être dire, est-ce que c'est possible? C'est possible. Si nous avons compris l'utilité de la prière, si nous avons compris notre maison, notre famille, c'est un champ de bataille. Ça dépend de quel côté nous nous penchons. Si nous aimerions nous pencher du côté de Dieu, nous devons introduire la prière dans la maison. L'homme et la femme et les enfants qui prient ensemble, d'une façon, avec les statistiques, ceux qui ne prient pas ensemble, plus de 80%, ce sont des familles à problème. Mais ceux qui prient ensemble, ils savent régler les problèmes jour après jour. Les problèmes ne s'accumulent pas. Parce qu'ils n'ont pas, ceux qui ne prient pas ensemble n'ont pas le temps de régler les problèmes. Les problèmes sont accumulés jour après jour, semaine après semaine, année après année, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir, de se tenir ensemble, de chercher la dynamique divine ensemble. Amen. J'aimerais que dans ce camp de restauration de la famille, que ça soit un défi dans chaque famille pour dire, nous avons écouté la parole. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour instaurer la prière dans la maison? Et ça, c'est l'autorité du mari qui doit instaurer cela. Les chefs de famille. Et nous allons le voir un peu plus loin. C'est la prière en famille, d'ensemble, c'est le moment où on doit expérimenter le pardon mutuel. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre pour demander pardon à son épouse ou pour demander pardon aux enfants, d'attendre la prière du soir. Pendant que Dieu nous conduit, le Saint-Esprit nous conduit, nous pouvons avoir fait quelque chose, on se rappelle, on demande pardon. Mais le moment de la prière ensemble, c'est un moment très très important. Parce qu'on se rappelle, mais comment je vais me présenter devant le Seigneur sale, sans que j'aie demandé pardon, sans que j'aie réglé telle situation. Et les situations sont réglées en ce moment-là, du jour au jour. Voilà pourquoi la prière d'ensemble, c'est un médicament pour les familles. Un médicament pour les familles. La prière ensemble. Il n'est pas tard de commencer. Et les jeunes gens, quand vous mariez, il faut instaurer cela dès le départ. Nous devons prier ensemble. Vous devez en parler pendant les fiançailles. Nous devons apprendre à prier ensemble dans la famille. C'est une brique très importante. La prière d'ensemble, certains serviteurs de Dieu disent que c'est vraiment comme du ciment pour réellement mettre du ciment là où il y a des fissures. Mettre du ciment quand on apprend à prier ensemble. C'est le moment de la formation aussi. Les Écritures nous disent que nous devons apprendre à enseigner à nos enfants. Si nous n'avons pas ces moments, comment nous allons les enseigner? C'est le moment où les problèmes de la vie sont placés sur la table. C'est le moment où tout ce qui dérange les enfants sont placés sur la table. Nous prions pour cela. Tout ce qui dérange la vie de la famille s'est placé sur la table. Et nous remettons cela au Seigneur. Et c'est le moment où les parents prononcent les paroles de bénédiction sur la vie des enfants. Qu'ils soient présents ou pas, c'est ce moment-là qu'il faut profiter. La prière d'encens. Surtout, les tensions dans les couples peuvent vraiment avoir leur origine du côté du diable. Et nous avons, quand nous avions parlé de mauvaises fondations ou mauvais fondements, beaucoup de conflits peuvent être carrément d'origine vraiment diabolique. L'ennemi qui veut, on prend une parole, on a dit A, la personne entend que c'est B. La personne, une parole bien prononcée, la parole est transformée en injure. Et ça peut facilement être l'action du diable. Et c'est dans la prière d'ensemble qu'on va détruire ce genre d'incompréhension. La prière d'ensemble, nous l'avons appelée l'autel familial. Et cet autel familial, tout père responsable devrait dresser un autel familial dans sa maison. Et réunir les siens une heure ou 30 minutes ou 20 minutes suivant la disponibilité, ça va être adapté suivant que les enfants sont petits, ça va être adapté suivant que les enfants ont grandi, mais c'est comme nous avons parlé tout le long de ces camps, que le chef de famille c'est le pasteur de sa maison. Il doit s'investir pour réellement que l'autel de la famille fonctionne. C'est le moment où la prière est exercée. C'est le moment où la lecture de la Bible est exercée. C'est le moment où on chante, on apprend à chanter ensemble pour le Seigneur. Le pasteur qui est le chef ou même qui est le sacrificateur de sa maison, c'est le moment où il doit enseigner. Mais la maman aussi peut enseigner, peut diriger sur la délégation du chef de famille. Donc les deux parents peuvent réellement faire ce travail. Il est impossible, écoutons chers parents, il est impossible de bien éduquer les enfants s'il n'y a pas la prière d'ensemble dans la maison. Si nous voulons que nos enfants soient bien éduqués dans le Seigneur, nous devons apprendre à mettre l'autel de famille dans la maison. Que ce soit à n'importe quel âge que les enfants se trouvent, ils ont besoin de voir combien les parents peuvent s'agenouiller, peuvent prier, peuvent crier vers le Seigneur. Rappelons-nous en Jérémie 1, verset 5, comment quand on a appelé Jérémie, le Seigneur pouvait lui dire: dès le sein de ta mère, je te connaissais. Donc le Seigneur connaît même avant que nous venions dans ce monde. Voilà pourquoi nous devons instaurer la prière d'ensemble continuellement. Que nous soyons sans enfants, que nous soyons avec les enfants, que même si les enfants sont déjà partis, nous devons continuer. Surtout quand les enfants ne sont pas encore là. Où sont déjà partis, nous constituons une base logistique, une base de soutien de nos enfants qui sont déjà partis de la maison. Et nous ne pouvons pas ne plus prier ensemble parce que nous sommes restés à deux, nous sommes restés sans enfants. Non, nous devons constituer une base de soutien très efficace quand nous avons appris à prier ensemble. Frères et sœurs, la prière d'ensemble, quand nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons savoir que c'est vraiment dans la volonté de Dieu. Lisons Jérémie 10, verset 25. Jérémie 10, verset 25. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur le peuple. Dans d'autres versions, on parle même sur les familles. le peuple qui ne t'invoque pas, qui n'invoque pas ton nom, car il dévore Jacob, il les dévore, il les extermine, ils font de son domaine une désolation. Le verset 25, dans d'autres versions, il dit, répands ta fureur sur les familles qui ne te connaissent pas et celles qui t'invoquent, et sur le peuple qui n'invoque pas ton nom. Pour dire, les familles ou le peuple qui invoque ton nom ensemble constituent une force inimaginable dans la maison. Une force inimaginable dans la maison. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant dans la prière d'ensemble. Nous devons comprendre, quand nous nous mettons ensemble, nous prions ensemble, nous sommes en train d'exercer ce qu'on appelle les combats spirituels. C'est vrai, c'est un terme qui est très mal utilisé aujourd'hui par d'autres groupes qui utilisent très mal les combats spirituels. Mais c'est une réalité. Comme c'est un champ de bataille, la famille, nous devons savoir que nous sommes dans les combats. Et regardons comment est-ce que Dieu faisait avec son peuple. Il y a Jéricho qui est devant. Au lieu que Dieu aille détruire Jéricho pour laisser passer son peuple, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne des stratégies de combat. Et quand il donne des stratégies de combat, c'est pour que son peuple applique les stratégies et soit vainqueur. C'est ainsi que nous avons vu au travers l'histoire des enfants d'Israël des exploits, des victoires vraiment extraordinaires où des fois les ennemis eux-mêmes sont en train de s'entretuer. Mais tout cela, Dieu, aujourd'hui encore, il agit de la même manière. Il donne des stratégies à ses enfants de combat. Et une des stratégies, c'est ensemble, se mettre ensemble, combattre l'ennemi ensemble. Et quand nous n'avons pas compris cela, nous allons commencer à nous entretuer. Et nous oublions que notre épouse ou notre mari, c'est pas lui qui est notre adversaire. Notre adversaire, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il a commencé dès le commencement à détruire les familles. Il continue à les détruire aujourd'hui parce que nous arrivons à dormir dans la famille, à ne pas prendre conscience de l'action de l'ennemi. Lisons ensemble Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10. Et là, si on est impliqué, si on comprend combien la famille c'est un champ de bataille, beaucoup de conflits où nous pensons que mon adversaire c'est mon mari, mon adversaire c'est ma femme, mes adversaires sont mes enfants, nous allons changer facilement de cible. Éphésiens 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le verset 12 est très important dans la famille, frères et sœurs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits malins dans les lieux célestes. Notre ennemi, ce n'est pas notre épouse. Enlevons de notre tête, quand il y a un conflit, on jette des flèches sur notre ennemi. Nous avons un ennemi, pardon. Nous avons un ennemi commun, c'est le diable. Changeons de stratégie pour voir que notre ennemi, ce n'est pas notre mari, ce n'est pas notre épouse, ce ne sont pas nos enfants. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons vraiment aller loin et ensemble, imaginons une équipe ça peut être une équipe de soccer, une équipe de football, une équipe de hockey. Ils sont ensemble sur le terrain. Et il y a un joueur, au lieu d'aller marquer dans le camp adverse, le joueur va marquer dans son propre camp. C'est ce que beaucoup de familles font. Nous devons constituer une équipe contre l'adversaire pour vaincre. Et même là, si nous voulons chercher à vaincre, nous ne pouvons pas aller dans l'ordre dispersé. Quand nous allons au combat dans l'ordre dispersé, nous avons déjà l'échec. Je ne pense pas que nous pouvons constituer la famille que Dieu nous a donnée pour que nous sachions que nous allons aller en échec. Nous n'avons pas compris qui est l'adversaire et nous sommes en train de chercher l'individualité dans la maison. On pense toujours la faute, c'est chez ma femme. Mais on ne se regarde pas soi-même. On pense toujours la faute chez mon mari, mais on ne regarde pas soi-même. Ça, c'est une mauvaise stratégie. La bonne stratégie, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire pour que les choses aillent bien dans la maison. Le fautif, c'est pas toujours l'autre. C'est peut-être moi qui suis fautif, mais je ne sais pas voir. Je ne sais pas me regarder convenablement, suivant la lumière de la parole de Dieu, pour voir qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent. Amen.
Amen.
N'allons pas, frères et sœurs, en ordre dispersé. Nous devons chacun comprendre que nous sommes au combat. Et comme nous sommes au combat, chaque membre de la famille doit porter cette armure. Et nous avons, depuis Éphésiens 10 jusqu'au verset 18, on nous montre l'armure que la famille doit porter. La vérité, la justice, la patience, la foi. Chaque membre de la famille, enfant, papa, maman, nous devons chercher à porter l'armure. Et quand chacun a porté l'armure dans la maison, nous serons prêts pour le combat. Sinon, nous ne pouvons pas. J'aimerais que nous puissions lire ce texte. Je suis en train de courir derrière le temps en jetant un coup d'œil sur le modérateur qui m'a donné le temps. J'aimerais que nous puissions lire ce texte ensemble. Nous avons lu les deux premiers versets. À partir du verset 13, nous pouvons lire ensemble. Ça, c'est que chaque famille, chaque membre de la famille doit porter. C'est pourquoi. Non, je vais lire, juste écoutez. Écoutez. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pas de cache-cache. Disons-nous la vérité. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Pas faire les Rebecca qui veut l'autre enfant qui favorise un. Non. La justice dans la maison. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile. Et nous avons dit une des raisons de la famille, l'existence de la famille. La famille, c'est le salut du monde. Et quand on commence par la formation des disciples dans la maison, et nous allons voir que nous pouvons facilement aider le monde à devenir meilleur. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi, la confiance en Dieu, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être présente dans la maison si nous voulons réellement bâtir une famille selon Dieu. Et nous avons écouté, que ce soit le témoignage de notre fille Anna, que ce soit dans la présentation du FIMES, quand l'homme et la femme, les enfants, ont comme base la résolution des conflits, la parole de Dieu, ils sont déjà vraiment un grand pas dans la solidité même de la famille. La parole de Dieu doit prendre place. Même si on doit écrire cela au mur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous entrez dans notre maison, vous verrez en grand Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La parole, quand vous entrez dans la douche, il y a la parole. Quand vous êtes à la cuisine, il y a la parole. Parce que nous devons, non seulement il y a la parole, mais nous devons vivre la parole. Nous devons apprendre à nous demander pardon les uns des autres, à nous humilier les uns des autres, à nous agenouiller ensemble pour élever et glorifier le Seigneur. Ça, c'est un champ où réellement tous nous portons les armes pour combattre. Verset 18, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières, de supplications, veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est dans la famille que nous devons apprendre à prier pour tous les saints, pas nécessairement à l'église. Quand nous n'avons pas constitué une famille solide, nous devenons vraiment un point faible pour notre église. Et quand nous sommes forts dans la famille, dans la prière, en train de détruire les œuvres des ténèbres, même notre église devient vraiment une église forte. Amen.
Amen.
La femme, dans les combats spirituels, frères et sœurs, c'est un radar. Dans la stratégie de Dieu, la femme, c'est un radar. Un radar dans ses combats, dans le sens que la femme a une sensibilité que les hommes n'ont pas. Une sensibilité même sur le plan spirituel. Il y a des choses spirituelles qui peuvent venir dans la maison. La femme va vous dire, je sens que ce frère-là, son arrivée ici, je ne sens pas bien. Les hommes nous disent, non, toi aussi, tu exagères, toi tu ne vois que le mal partout. Mais quand la situation va arriver, vous allez dire, mais en fait, il avait raison. Donc, ceci pour dire que nous, les hommes, apprenons sur le champ de bataille que nous avons à écouter nos épouses. Sur le plan spirituel, Dieu peut beaucoup utiliser dans la sensibilité spirituelle beaucoup nos épouses que nous. Donc, pour dire, nous devons pousser nos épouses à développer beaucoup ces radars, la sensibilité spirituelle de sentir qu'il y a nécessairement quelque chose qui est en train de venir dans la maison. Et vous avez la stratégie du diable. Le diable va chez Ève pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit ceci? Alors, Ève commence maintenant à réfléchir. Alors, elle va maintenant donner la parole contraire à ce que Dieu avait dit. Ève va obéir cela, elle va manger le fruit, elle va amener chez son mari. Ça, c'est le radar qui était déjà attaqué. Quand le radar est déjà attaqué, ça signifie que vous n'avez plus les contrôles de savoir d'où va provenir la flèche. Donc, apprenons vraiment à développer le radar dans la maison. La femme a une sensibilité spirituelle très, très poussée dans les combats spirituels. Mais l'homme, lui, c'est un guerrier. L'homme, c'est un grand intercesseur. L'homme, c'est celui qui commande les combats dans la maison. C'est lui qui doit réellement pousser son monde en tant que pasteur, en tant que sacrificateur, à aller loin avec les combats, ça c'est l'homme. En ce moment-là, la femme aussi et les enfants doivent pousser les guerriers à comprendre son rôle, à comprendre que ce n'est pas tout le temps de dormir. Il faut passer du temps dans la prière, il faut passer du temps dans les jeûnes, pousser le guerrier à prendre ses responsabilités. L'homme, c'est un grand guerrier. Amen. Donc, nous avons déjà dit que le champ, la famille, c'est vraiment le champ de bataille. Et l'homme et la femme sont impliqués dans les combats. Et nous devons développer des stratégies pour réellement combattre. Dieu ne viendra pas combattre à notre place. C'est pour cela que quand nous lisons pardon. Quand nous allons en Luc, allons-y en Luc 19. Luc 10, 19 plutôt, plein verse. Et ça, c'est une parole qui doit s'exercer dans la famille. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette parole va s'appliquer quand vous êtes unis ensemble. Quand vous constituez une équipe qui veut gagner, pas une équipe perdante où chacun et chacune est divisé, une équipe gagnante doit apprendre à travailler ensemble, doit apprendre à combattre ensemble. Et le Seigneur ne dit pas, quand vous entendrez par exemple, et ça ce sont des choses qui arrivent, vous êtes en train de dormir, et comment à votre fenêtre les chats, ils viennent tous les jours pleurer, toujours à votre fenêtre. Alors vous allez dire, mais Seigneur, chasse les chats pour nous. Nous aimerions dormir, mais regarde, ces chats viennent nous déranger. Non, le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur nous a donné une stratégie. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. C'est vous qui allez dire, allez-toi, quitte, moi je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, j'ai le pouvoir de te commander, de ne plus jamais venir ici. Et il va obéir. Ça, c'est la stratégie de combat. Amen.
Amen.
Dieu ne va pas combattre à notre place. Dieu nous protège. Dieu a déjà beaucoup fait. Il a déjà tout accompli. Il a mis le sang de Jésus que nous devons utiliser à notre disposition pour, comme stratégie dans les combats. Mais nous devons, nous, exercer l'autorité. Apprenons à exercer l'autorité dans la maison. Quand nous avons exercé l'autorité dans la maison, quand nous quittons la famille, nous allons comme famille dans l'église, nous sommes une famille gagnante. Et quand nous allons rencontrer d'autres familles gagnantes, nous constituons une famille, une église forte pour détruire les œuvres du ténèbre. Mais pas une famille divisée qui vient dans la voiture en train de se chamailler, en train de s'injurier, et à la porte de l'église, tout le monde devient saint. Mais quand vous entrez à l'église, vous êtes en train de créer des fissures pour que l'ennemi puisse attaquer l'église. Nous devons être vraiment une famille qui sait que nous devons vaincre et qui doit prendre les responsabilités. Et dans la stratégie des combats, quand nous regardons Jérémie chapitre 48, le verset 10, Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mais ce qui m'intéresse, c'est la phrase qui suit. Maudit soit celui qui prive son épée du sang. Ça signifie, quand on prive son épée du sang, on ne combat pas. Son épée est toujours bien gardée dans l'étui. On ne combat pas. La famille, c'est un champ de bataille où chaque membre de famille, c'est un combattant. Et cela ne peut se faire que quand nous avons instauré la prière d'ensemble. La prière d'ensemble. C'est dans la prière d'ensemble que nous venons puiser la force du combat. La prière individuelle, elle est bonne. Elle est recommandée. Priez sans cesse. Elle est recommandée. Mais la prière d'ensemble, ça c'est une brique qui doit réellement rendre notre famille solide. Une brique qui doit rendre notre famille solide. La prière d'ensemble. chers enfants, quand vous rentrez à la maison, demandez aux parents, nous devons instaurer la prière d'ensemble. Quand il n'y a pas de prière d'ensemble, demandez aux parents, nous devons prier ensemble. Nous sommes en train de ne pas découvrir les secrets de la prière d'ensemble dans la maison. Amen.
Amen.
Quelques tactiques du combat, frères et sœurs. Psaume 22, le verset 3. C'est la louange. Et nous les chantons très bien. Le verset 3. Mon Dieu, j'écris les jours et tu me réponds la nuit. Je garde le silence. Psaume 22, le verset 3. La louange dans la stratégie du combat. Apprenons à louer le Seigneur ensemble. La louange brise les chaînes dans les combats. À chanter, à proclamer la puissance, la grandeur, l'autorité de Dieu ensemble. La louange, ça brise les chaînes. Ça, c'est une des stratégies de combat. Et une autre stratégie, c'est de connaître quelles sont les armes que nous utilisons dans les combats. Allons-y en 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 6. Tout ceci, nous le disons parce que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 au verset 6. Et nous pouvons commencer même à lire à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Renverser les raisonnements ici, ce n'est pas comme d'autres théories qui disent qu'il faut lier l'intelligence. Non, ce n'est pas ça. Nous devons apprendre à renverser les raisonnements et on nous précise toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a le diable qui amène des faux raisonnements. Nous devons briser ce genre de faux raisonnements dans les autres. C'est dans la prière que nous pouvons avoir ces combats. Surtout la prière d'ensemble a une très très grande efficacité. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Et nous sommes prêts, le verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Frères et sœurs, Le Seigneur ne viendra pas combattre à notre place. Il a déjà combattu pour nous. C'est pour cela qu'à la croix, il a crié que tout est accompli. Il a déjà combattu pour nous. C'est nous qui ne savons pas saisir quand nous nous réunissons ensemble pour puiser la force et réellement aller combattre. Une autre tactique de combat, c'est celle de comprendre 1 Pierre 5, 8 que l'ennemi n'est pas loin. Le verset 8, il nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, on nous dit même votre adversaire, n'oublions pas que le plus grand ennemi de la famille, c'est notre adversaire, le diable. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche quelle est la famille qu'il veut détruire. Et c'est la famille où il entend tous les jours, il n'y a que des injures, il n'y a que des paroles mauvaises, il n'y a que des attitudes qui n'honorent pas Dieu. Ça, c'est une famille qui s'offre à l'ennemi. Il ne fait qu'éroder pour détruire. Il cherche à détruire. Il cherche là où il va entendre. En tout cas, moi, je vais divorcer. Moi, je vais quitter cette maison. Moi, je là, c'est là. Ça, c'est la semence. Une telle semence, l'ennemi en profite pour mettre vraiment de l'huile sur le feu. Il y a des paroles que les familles chrétiennes ne peuvent plus prononcer. Comment je dois prononcer? Je vais divorcer. Je vais divorcer. Chaque jour, je vais divorcer. Chaque jour, je vais rentrer chez nous. Non. Et l'ennemi va profiter pour réellement détruire cela. Il rôde comme un lion rugissant, frères et sœurs. Il rôde comme un lion rugissant. Le verset 9 nous dit, résistez-lui avec... Résistez-lui ferme à la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous pensons qu'il n'y a que nous qui avons des difficultés dans la famille, mais il y a aussi des difficultés dans notre famille. Mais ils savent comment gérer cela. Comment glorifier Dieu quand ça va et quand ça ne va pas. Gardons dans les combats que l'ennemi n'est pas loin. Mais nous ne pouvons pas aussi nous présenter dans ces combats en ordre dispersé, chacun pour soi. Quand c'est chacun pour soi, l'ennemi va chercher celui qui est plus faible, il va les tirer. Tous ensemble, unis comme une équipe, dans les combats, dans la maison. Tous ensemble, unis vraiment comme une équipe. Apprenons, frères et sœurs, à développer le radar dans la maison, à donner à la femme sa place, à lui donner assez que les Écritures prennent place dans sa vie. Et nous allons voir réellement comment le Seigneur peut réellement être glorifié. Mais développons aussi, donnons du temps aux guerriers de développer les aptitudes du guerrier. Et le radar, et le guerrier, ils peuvent constituer une équipe. Et les soldats, qui sont les enfants, ils peuvent constituer vraiment une équipe où chaque jour, ils élèvent le Seigneur, mais ils sont en train d'être en une compagnie de l'armée. Dans d'autres, si on parlait, on parlera d'une famille qui est comme des fantassins, où l'ennemi voit que ceux-là, je les ai déjà perdus. Tout simplement parce qu'ils ont compris qu'il n'est pas loin, cet ennemi. Il ne fait qu'éroder. Et il va utiliser quoi? Ce que nous lui prêtons. Les paroles, les pensées, les actions, les attitudes, tout ce que nous faisons dans le ténèbre. Ça, c'est une semence qui l'encourage à être là, à être présent. Tout ce que nous nous cachons, tout ce que nous faisons, nous n'encourageons pas réellement l'équipe à gagner. Entrons vraiment, frères et sœurs, dans ces combats en équipe. Mais pas en équipe perdante, en équipe qui gagne. J'aimerais que nous lisions, pour terminer, Lévitique 26, versets 7 et 8. Chapitre 26 de Lévitique. Le verset 7 nous dit ceci. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont par l'épée devant vous. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont par l'épée devant vous. Le verset 9. Je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Ceci pour clôturer ce message, frères et sœurs, que l'unité est la clé de la victoire dans les combats dans la maison. L'unité, c'est la clé de la victoire dans la maison. La division, favoriser les œuvres de ténèbres dans la maison, dans la famille, c'est notre destruction à petit feu dans la maison. Vous avez peut-être déjà vu un grand arbre, mais à l'intérieur, il y a des petits insectes. Et ces petits insectes ne font que ronger à l'intérieur de l'arbre, à l'intérieur de l'arbre, à l'intérieur de l'arbre. Et un jour, on verra un tout petit vent. Ce petit vent qui souffle, on voit un grand baobab qui tombe. Tout simplement parce qu'on a laissé les petits insectes en train de ronger les baobabs. Chacune de nos familles, telles que nous sommes là, frères et sœurs, nous sommes ces baobabs. Des petits insectes que nous sommes en train de laisser ronger nos familles, ce sont des petites, ce que nous pensons des petites choses. Ce que nous pensons, une petite désobéissance, une petite parole méchante, une action qui n'encourage pas Dieu, et telle chose, telle mauvaise semence, nous sommes en train de laisser cela entretenir. Un jour, nous allons voir notre famille, appréciée par tous, tout simplement s'écrouler, parce que nous avons laissé ces petits insectes détruire notre baobab. L'unité, c'est la clé dans la construction. Travaillons en équipe pour bâtir nos familles. Nous sommes venus dans ce camp pour dire, lèvons-nous et bâtissons. Parce que nous aimerions nous mettre du côté de Dieu pour bâtir. Et une des clés très importantes dans la maison, c'est la prière. C'est introduire la parole, c'est introduire la louange dans la maison. Et nous pouvons regarder dans les Écritures tous ceux qui ont incorporé la prière comme leur vie dans leur famille, ce sont des gagnants. Amen.
Amen.
Que le Seigneur bénisse sa parole.
Amen.
Merci d'avoir respecté le...